enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Donc le message aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le ciel est ouvert ». Pour que nous puissions réaliser une fois de plus quel est notre privilège extraordinaire de réaliser qu'il y a une communication entre le ciel et la terre. Ce n'est pas un message où je voudrais dire simplement « il faut que tu pries plus » ou des choses comme ça. Je trouve qu'on devrait placer le débat autrement, plus haut, de dire « il y a une communication céleste ». Nous sommes la génération et les gens qui sont capables de communiquer avec Dieu, d'entendre de lui. Commençons déjà pour ne plus nous dire « Ah, c'est difficile, j'arrive pas, je ne comprends pas ». Il y a des gens qui disent « Oh, la Bible est compliquée ». Non, elle n'est pas compliquée, elle est simple, mais il faut l'aborder d'une certaine façon. Si on veut l'aborder d'une façon complexe, on peut vous expliquer toutes les raisons que Dieu a de ne pas exaucer vos prières. D'accord ? Vous pouvez vous faire une longue liste, mais on peut tout aussi bien vous parler de la manière dont Dieu aimerait communiquer avec vous. Et moi, j'aimerais vous dire ça. Il veut vous parler en cet instant même. Il veut que vous entendiez de lui. Et on va y venir peut-être tout à la fin. Je vais vous lancer un défi, le défi des minutes. Lancez-vous un défi dans votre journée. C'est-à-dire de ne pas rester une période prolongée dans votre journée où vous ne communiquez pas avec Dieu. Je ne vous dis pas de toutes les je ne sais combien, toutes les heures, vous allez vous enfermer quelque part et là vous faites votre temps de prière. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est dans vos activités, dans votre quotidien, dès que vous vous levez, vous avez cette conscience de Dieu. Vous communiquez avec lui. Il y a une difficulté qui se produit, vous lui dites. Il y a une joie qui se produit, vous le remerciez. Et ainsi, vous développez de plus en plus cette conscience de la présence de Dieu. Il doit y avoir un fruit dans votre vie de la présence de Dieu en vous. Sinon, ce n'est pas quelque chose qui est valable. Les gens n'ont pas besoin de religion. Il y en a déjà assez comme ça. On a besoin de cette communication, de dire, oui, il y a un Dieu vivant. Oui, c'est le Créateur. Oui, il a créé l'être humain pour son plaisir, pour l'aimer, pour des bonnes choses. Alors d'où vient le mal? C'est ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité. Mystère, ça veut dire quelque chose qui est caché. Dieu a prévu la capacité pour l'homme de choisir, non pas le bien, mais de faire autrement. L'homme l'a choisi, et maintenant il en subit les conséquences. Mais ce n'est pas terminé pour autant, puisqu'il y a maintenant une possibilité pour l'homme de retrouver des choses qui ont été perdues. Parle même des gens qui ne sont pas très croyants, ils ont cette culture du paradis perdu. Nous parlons du paradis perdu qui est retrouvé. De nouveau, avec, dans la famille de Dieu, cette capacité de communiquer. Donc le ciel est ouvert. Dans tout l'Ancien Testament, il y a eu des périodes où Dieu ne parlait pas. Où Dieu, les prophètes se désespéraient en disant « Le ciel est fermé, il est d'airain, il est de plomb, il n'y a rien qui passe, Dieu n'entend plus nos prières. » Ils se posaient des questions « Est-ce que le bras de Dieu est trop court? Est-ce qu'il ne peut plus délivrer ?» Et donc, maintenant, les réponses arrivent avec Jésus. Tout ça, c'est terminé. Il dit « Je vois le ciel ouvert. » C'était révolutionnaire. Il disait « Je vois le ciel ouvert et il y a une communication. » Et il dit, je vois des anges qui montent et qui descendent. Les anges sont les messagers de Dieu. Ce sont des êtres célestes, spirituels, réels, qui communiquent des choses. Messagers qui apportent des délivrances, qui apportent protection, qui apportent secours. Et donc, cette façon dont Jésus a décrit, c'était l'échelle de Jacob, si vous vous rappelez. Jacob avait déjà une vision que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait une communication entre le ciel et la terre. La terre a été spécialement créée pour l'espèce humaine. On est fait pour cette terre. On n'est pas fait pour vivre sur Mars, ni sur la Lune. On est fait pour être ici. Et la terre a été créée pour nous. Et le ciel est pour Dieu. Et il y a une communication entre les deux. Parce qu'un jour, vous le savez, nos corps ont cessé d'exister comme ils sont maintenant. Parce qu'il y a un vieillissement. Et puis, il y a une mort physique. À moins qu'il y ait une transformation. La Bible nous parle de ça aussi. Mais sinon, notre esprit est destiné à vivre éternellement. On est créé à l'image de Dieu, vivre éternellement dans sa présence. Mais maintenant, comme nous sommes sur terre, on a les pieds sur terre, hein, c'est important d'avoir les pieds sur terre, mais on a besoin constamment des informations qui nous viennent du ciel. C'est pas juste pour faire des critiques gratuites, mais dans le monde, il y a énormément de désinformations. Énormément. Parce que les hommes sont motivés par toutes sortes de choses. Ils savent que les médias, la communication, c'est un instrument puissant entre les mains. On en avait parlé déjà une autre fois. On avait dit, la première chose qui se passe, c'est lorsque deux pays vont s'affronter, on essaye de brouiller les communications, de stopper la communication, pour qu'on ne puisse plus savoir ce qui se passe, comment l'ennemi se prépare, se déplace, tout ça. Donc pour nous, ce qui est important, c'est qu'on ait constamment la bonne information. Quelqu'un dit, nous n'avons pas besoin tellement d'inspiration que d'information. Mon peuple périt par manque de connaissances, disait le prophète Osée. C'est tout simplement parce qu'on ne sait pas certaines choses qu'on ne peut pas y accéder. Donc, ce que je vous rappelle aujourd'hui, c'est que le ciel est ouvert et que Dieu veut communiquer avec lui. Faites-le. C'est si simple. Il suffit de le faire. Ouvrez votre bouche. Parlez-lui. Prenez le temps. Ne faites pas des formules compliquées. Dieu n'est pas intéressé par les formules. Les formules magiques, ça c'est bon pour les histoires qu'on raconte, où on agite une baguette, on prononce une certaine formule et des choses se passent. Et on a l'impression que des fois les gens religieux sont tombés exactement dans ce travers aussi des formules. Les formules ne sont pas importantes. Les mots ont leur importance et leur puissance. Mais ce qui est important, c'est cette communication de cœur à cœur avec Dieu. C'est ce qu'il attend. Il dit, quelque part dans les proverbes, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il est intéressé par cette relation au niveau de l'esprit. Donc, si vous voulez, dans 1 Pierre 4, nous allons revenir sur un verset qu'on a lu récemment. 1 Pierre 4, verset 7. « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Ici, je suis persuadé qu'il n'est pas dit « Arrêtez toutes vos activités, ne faites plus rien, enfermez-vous dans votre chambre et passez tout le reste du temps à prier. » Il est dit « La fin de toute chose est proche. » Ça veut dire que si vous voulez faire preuve de sagesse, alors il faudra aussi être sobre. Sobre, ça veut dire il faudra se priver de certaines choses, il faudra vivre simplement et il faudra se dégager du temps. On ne trouve pas de temps. La sobriété, c'est ce qui permet de trouver du temps. Si votre vie est trop dense, trop remplie, alors ça n'ira pas. Il y a des tris à faire pour dire, je vais me dégager du temps pour vaquer à la prière. Avant tout, il nous est dit, ayez les uns pour les autres un amour, un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Les formules, comme je dis, il y a des choses, ça ne doit pas être des formules. Ici, on a l'impression que c'est comme une formule à la fin, quand il est dit que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Chaque mot ici a son importance, c'est pas juste pour faire bien ou pour finir le texte. Comme les salutations de Paul où il disait des choses. Parce qu'il savait que les mots étaient chargés de puissance. Et qu'on avait besoin pour ça de pouvoir élever notre cœur dans des dimensions qui nous dépassent. C'est pas une dimension qui vous dépasse ça au siècle des siècles. Au siècle des siècles, on a tellement entendu, on le dit un peu mécaniquement. Mais au siècle des siècles, ça fait longtemps. Hein, ça fait une grande durée. Ça veut dire que ça nous parle d'éternité. Ça parle de l'infini. On est peut-être peu de choses pour penser à l'infini, mais moi je trouve que c'est enthousiasmant de dire que nous avons une relation avec un Dieu qui est infini. C'est une réalité Nous devrions être exaltés et enthousiastes de cette révélation que nous sommes plus que juste un être matériel, comme j'aime à le dire. On est plus que juste une mouche qu'on pourrait écraser. On est plus que ça. On est un être pas compliqué, mais complexe. Complexe, ça veut dire avec beaucoup de possibilités. Et donc, il est dit que nous voulons glorifier Dieu par Jésus-Christ. À lui appartiennent la gloire et la puissance. La gloire, c'est l'atmosphère céleste. C'est là où on respire le bon parfum du ciel. Et donc, pour nous aussi, quand on dit le ciel est ouvert, ça veut dire qu'on veut vivre des réalités du ciel sur la terre. Comme on a pu partager cet article du médecin qui avait fait son étude sur la bonté et sur ses effets bénéfiques sur nous, on peut dire oui. Quand il y a la bonté dans un foyer, dans un couple ou entre parents et enfants, quand on crée une atmosphère, on aime être là. Et quelqu'un a dit aussi, si vous arrivez dans une maison et qu'on y a fait frire du poisson, ça se sent. Il y a l'odeur du poisson frit partout. Et donc, on peut aimer manger le poisson, mais on est d'accord que certaines odeurs ne sont pas toujours celles qu'on apprécie. Donc, on peut ressentir physiquement des odeurs agréables ou désagréables, et on peut en même temps ressentir aussi une atmosphère. Il y a des gens qui peuvent vous faire un gentil sourire, mais vous vous sentez mal à l'aise avec eux. Et donc, il y a aussi des situations où vous arrivez quelque part et vous vous sentez bien. Vous sentez qu'il y a une atmosphère du ciel sur la terre. Et donc, de la même façon que dans une famille, dans un couple, il peut aussi y avoir cette relation entre Dieu et nous, où il y a quelque chose qui se passe qui est bien. Nous n'arrivons pas dans la présence de Dieu avec toujours un sentiment de culpabilité ou de condamnation. Vous pouvez choisir dans quel état d'esprit vous voulez demeurer. Est-ce que vous voulez demeurer toujours dans ce genre de situation? Vous pouvez vous construire une image mentale, ce qu'est le chrétien idéal, comment il devrait être. Vous vous comparez à ça, et vous voyez que vous n'y arrivez pas. Vous êtes tout le temps mal à l'aise, tout le temps découragé. Acceptez-vous comme vous êtes, avec vos qualités et avec vos défauts, avec vos forces et avec vos faiblesses. Dieu va vous aider à changer certaines choses, mais vous n'allez pas vous changer vous-même par la force de votre volonté, etc. Mais vous allez être changé dans sa présence, changé alors que vous lui parlez. Tout à coup, quand vous parlez à Dieu, vous savez, tout à coup, certaines choses commencent à devenir moins importantes. Mais plus vous parlez de certaines choses qui prennent de l'ampleur, vous avez l'impression, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Et ça prend une dimension qui est justement dans ce verset 7, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière ». Il prend une dimension qui n'est pas une dimension normale. Au regard de l'éternité, certaines choses reprennent leur place. Vous pouvez vous inquiéter maintenant pour quelque chose. Je ne sais pas, admettons, vous avez une vieille voiture, elle commence à être usée, elle perd de l'huile, etc. Vous dites, oh là là, il faudra que j'en change. Commencez à vous inquiéter sur le budget, comment vous allez acheter la neuve, ou plein de choses. Quelque chose dont vous avez besoin. Mais dans la perspective de l'éternité, du retour de Jésus, de son avènement, dans un million d'années, vous n'allez plus vous poser des questions. Mais finalement, comment on avait fait pour solutionner le problème de la voiture ou de la maison ou de vos études ou d'autres choses? C'est ce que l'apôtre Paul disait. Il disait, j'estime que les souffrances du siècle présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir. Cette perspective de l'éternité, cette relation avec Dieu nous permet de relativiser. Nous avons besoin de relativiser. Sinon, nos problèmes vont devenir trop gros. Et quelqu'un qui vient de l'extérieur dit « Quoi ? Ça te pose un problème, ça ?» Mais pour vous, ça sera un souci. Pour vous, ça sera un souci. Et quelqu'un à côté de vous dit « Oh, mais non, c'est un détail, c'est pas grand-chose. » Donc, rendez-vous service à vous-même. Quand vous parlez à Dieu, vous voyez de nouveau qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui est essentiel. Et vous allez expérimenter de nouveau que si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, beaucoup de choses vous seront données, beaucoup de choses vont s'arranger. On a l'impression que certaines personnes, leur slogan, c'est « Pourquoi prier puisque je peux m'inquiéter ?» On a l'impression que je ne peux pas prendre le temps de prier, il faut que je m'occupe de tout, il faut que je règle toutes les situations. Et on a l'impression que pendant ce temps, c'est comme si Dieu était obligé de rester les bras croisés parce que vous ne lui permettez pas d'agir. Vous ne lui demandez pas. Il y a des gens qui pensent que Dieu est trop occupé avec des choses plus importantes. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse, que Dieu puisse être attentif aux 6 milliards et quelques d'habitants de cette terre. À chaque instant, chaque seconde, chaque milliseconde, vous avez toute son attention. Et en même temps, toutes les personnes de cette planète, et encore toutes celles qui sont au ciel ou ailleurs, je ne sais pas, ont toute son attention. Ça ne vous dépasse pas, ça? Oui, mais c'est, pourtant, c'est ce que nous croyons. C'est une réalité. Et ça, c'est quelque chose. Notre foi, elle doit être immense pour croire ça. De croire que nous avons... On pourrait couper, on pourrait dire, bon, ben, si on prend une vie humaine moyenne, on coupe par les 6 milliards d'habitants, et peut-être, je ne sais pas si ça suffirait, on faudrait demander à un mathématicien de nous calculer ça, on pourrait peut-être avoir 5 minutes de son attention à tour de rôle, mais la réalité, c'est que nous avons toute son attention. Et si on ne lui demande pas d'agir pendant ce temps, c'est pas qu'il fait rien, mais il fait rien pour nous. Et il pourrait. Donc, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Faites le test. Ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte juste de faire le pas. Faites le test. Demandez. Demandez, demandez, demandez. Et le plus beau, c'est que Dieu n'est pas du tout fâché que vous lui demandiez. Alors, il y a assez rapidement... Quand il y a une bonne chose pour nous, quand il y a une promesse de Dieu, où Dieu dit, ben, je veux m'occuper de toi, je veux te faire du bien, je veux que tu sois en bonne santé, je veux faire prospérer tout ce que tu touches. Assez rapidement, il y a tout de suite un esprit religieux qui se manifeste sur la personne, sous la forme d'une personne bien intentionnée qui dit, oui, mais ça marche pas comme ça, et qui va vous dire que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il faut remplir plein de conditions et vous aurez bien le temps de découvrir les choses que Dieu va vous montrer. Peut-être il vous montrera, là, c'est toi-même qui est l'obstacle. Parce que, à cause de ton attitude, ou à cause de ta motivation. Mais il va vous le montrer, ça. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça non plus. Donc, faites-le. Il est dit, la fin de toute chose est proche. Prenez une juste perspective. Hier, j'ai eu l'occasion d'accompagner mon fils... un match de handball, et donc j'ai fait le chauffeur. Alors j'avais ma voiture remplie d'enfants qui étaient très bruyants et excités, et puis il y en a un qui a dit, j'entendais des conversations à l'arrière, il a dit, ah, mon frère, il croit à la fin du monde, ah, il est, je sais plus quel mot il a, idiot ou quelque chose, ou encore une grossièreté, et il croit, mais moi j'y crois pas du tout. Et alors il a dit, moi je crois que c'est pour 2012, et alors il y avait un tel mélange. On aurait pu avoir un bon débat ensemble là, mais ça s'y prêtait pas du tout. Moi, j'étais en train de rouler, mais je me suis dit, je me rappelle, un collègue m'avait dit un jour, il a dit, mais les gens parlent de la fin du monde, mais faut préciser, de dire quel monde. On peut dire la fin d'un monde, pour être précis. Il y aura toujours la fin d'un monde. Quand il y a eu la révolution industrielle, ça a été la fin d'un monde. Une civilisation telle que nous l'avions connue pendant plusieurs siècles, basée sur un mode agricole d'une certaine façon, a évolué. Ensuite, il y a eu, maintenant, nous vivons des révolutions technologiques qui font qu'un certain monde disparaît. Certains veulent conserver un certain style de vie, une façon de vivre. Comme par exemple, sans les critiquer, mais les communautés Amish qui veulent entretenir un certain style de vie, ils voudraient que leur monde, parce qu'ils aiment cette façon de vivre, qui leur semble naturelle, qui leur semble plus proche de la terre, etc. Donc, ils voudraient entretenir ça. Mais on peut dire qu'il y a toujours la fin d'un monde. Et la fin du monde, dans le sens que la terre s'arrête d'exister ou... Elle pourrait se produire, hein, si on fait sauter toutes nos bombes nucléaires, alors c'est fini. On pourrait aussi imaginer qu'un jour le soleil s'éteigne. Bon, ça sera dans un certain temps. Donc les gens se disent, moi je serai plus là d'ici là, donc ça me pose pas de problème. Mais donc on pourrait imaginer plusieurs scénarios de la fin du monde. Mais la réalité, c'est que il y a maintenant la fin de toute chose, ça veut dire il y a la fin d'un monde. Une certaine période sur la planète Terre va s'arrêter. D'autres choses vont prendre leur place. Il y a des choses qui vont se produire. Parce que il est évident pour tout le monde que, quels que soient nos calculs des réserves de pétrole ou d'autres, ça peut se prolonger pendant quelques décennies, mais à un moment donné, il y aura une mutation. Il y aura un changement dans ce monde. Mais nous, nous attendons des changements spirituels par l'action de Dieu lui-même qui intervient sur la planète Terre. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous n'avons pas besoin maintenant d'avoir tout le scénario en détail, comment tout va se passer. Nous pouvons simplement dire, nous sommes des acteurs de la transformation du monde tel qu'il est. Nous sommes des acteurs pour qu'il y ait un changement. Et dans Hébreux, il nous est dit, Hébreux chapitre 11, et au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La définition de la foi, ça fait toujours du bien de se la rappeler, c'est au verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et ensuite, il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, nous avons plusieurs choses que nous pouvons réaliser. Premièrement, dans Genèse 1, il nous est dit que Dieu est intervenu pour changer le chaos qui existait et pour donner à la terre l'apparence qu'elle a maintenant. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais on peut penser qu'il y avait une création pré-adamique, on peut penser qu'il y a des choses qui sont passées avec Lucifer qui est devenu Satan et la chute des anges et tous ces détails-là. Mais ce qui est important pour nous, c'est de dire, à un moment donné, par la parole de Dieu, l'univers tel que nous le connaissons a été formé. Et cet univers, dans d'autres versions, il est rendu par les mondes. Il y a des mondes, il y a plusieurs mondes différents. Comme on parle du monde du sport, du monde de la politique, de votre monde, votre cellule familiale forme un petit monde à soi. On dit des fois, en parlant de nos enfants, tout notre petit monde. Et donc, votre monde aussi est formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu dans vos prières et dans votre bouche forme votre univers, forme votre monde, forme votre vie. Posez-vous la question, vous qui êtes plus âgé, revenez en arrière dans votre mémoire. Est-ce que vous auriez imaginé que vous viviez tel que vous êtes maintenant, dans votre situation familiale ou professionnelle? Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous attendiez, que vous désiriez? Ceux qui sont plus jeunes, par rapport au projet que vous formez, est-ce que vous pouvez vous voir dans l'avenir? Peut-être vous vous voyez marié avec un job, une maison ou faisant des choses. Donc, qu'est-ce que vous imaginez pour ça? Comment vous travaillez pour former votre monde dès à présent? Ce que vous faites, ce sont des éléments qui rajoutent un peu à cette construction de votre monde. Si votre monde ne vous plaît pas, changez-le. Changez de monde. Il est dit ici, c'est par la parole de Dieu que l'univers a été formé. On le reconnaît par la foi. Votre monde peut changer. Vous pouvez changer les choses que vous désirez voir autrement. La parole de Dieu nous le promet. C'est dans le résultat de notre communion avec Dieu par la prière que les choses vont changer. Des fois, celles qu'on aimerait, finalement, au bout de notre petit périple, on ne les désire plus. Nos désirs peuvent changer. Peut-être maintenant, vous imaginez quelque chose. Si j'avais ça, si je gagnais 100 millions à l'euro million, là, tous mes problèmes seraient résolus. Mais on sait en même temps que certaines choses ne peuvent pas s'acheter. D'accord? Mais, donc, il y a des choses que vous pouvez désirer, que vous priez pour. Il y a des choses qui peuvent évoluer. Mais le Seigneur a dit dans Luc 18, là c'est peut-être quelque chose qui peut-être pour certains ne leur plaît pas trop, Parce que c'est un ordre de Jésus. Vous savez que Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il peut donner des ordres aussi? Ou est-ce qu'il doit seulement donner des conseils que nous on choisit, si ça nous plaît ou pas? Mais il y a des choses aussi, il l'a dit, voilà ce qu'il faut faire. Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Tout le monde dit, il faut toujours prier. Il n'a pas dit prie de temps en temps si tu en as envie. Il a dit qu'il faut toujours prier. Pourquoi il a dit il faut? Parce que c'est nécessaire. Comme pour, si je disais maintenant, écoutez, à partir d'aujourd'hui, on instaure une nouvelle loi. Il faut que vous respiriez tous les jours. On dirait, oui, c'est ridicule. On ne peut pas vivre 5 minutes sans respirer. Alors, il y a des choses, c'est naturel, c'est pour notre survie. Et ici, les choses spirituelles ne sont pas différentes. Il a dit, il faut toujours prier. Si tu ne pries pas, tu étouffes spirituellement. Tu n'as plus la communication avec Dieu. Tu vis en vase clos, tu vis éloigné de celui qui est la source de vie. Ne le fais pas. Il faut toujours prier. Dis-le à ton voisin, il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Voilà. Alors le relâchement, j'aime bien l'illustration qui est dans une des méditations de Kenneth Hagin. Peut-être vous vous rappellerez, c'était l'histoire du temps de la guerre de sécession. Il y avait un ballon et puis ils avaient gonflé le ballon et puis il y avait plusieurs hommes qui travaillaient là. Et à un moment donné, le ballon s'est élevé. Alors qu'il y en avait plusieurs qui étaient accrochés à des cordes autour de la nacelle. Et puis les gens ont vu avec horreur que ces hommes commençaient à tomber les uns après les autres. Ils étaient accrochés à la corde, mais au bout d'un moment, leur force n'en pouvait plus. Et ils sont tombés, c'était affreux. Et il y avait un qui tenait bon. Et plus tard, le ballon est redescendu et on lui a demandé « Comment tu as fait ?» pour tenir si longtemps. Comment tu as fait pour ne pas tomber comme les autres? Il a dit, quand j'ai vu que le ballon était en train de monter, je me suis attaché à la corde et je me suis laissé balancer librement. Et moi, je trouve que ça, c'est une tellement belle illustration de ce qu'on peut vivre avec Dieu. Nous, on a l'impression, quand on dit, lit ensemble, ne pas se relâcher, oh là là, il faut que je fasse tous mes efforts, et on y est de nouveau de tout notre cœur pour essayer de faire ce qu'on peut par nos propres forces. Au bout d'un moment, t'as vu ce qui arrive? Chacun de nous, on craque de nouveau, on se relâche. Les bonnes résolutions du 1er janvier ne durent pas très longtemps, alors il faut prendre de nouvelles résolutions, et ça, c'est la vie humaine avec notre capacité de nous discipliner plus ou moins, certains sont plus forts que d'autres dans ce domaine, mais là, quand on parle d'une discipline spirituelle, ne pas se relâcher, moi je pense à cette illustration. S'accrocher en Dieu, se cramponner en lui, être lié à lui, pour que finalement, c'est lui qui nous soutient, plutôt que c'est nous qui nous cramponnons. D'accord? Ça vous convient ça, comme ma vision? Faites-le. Je ne sais pas comment vous le dire exactement, chacun doit aussi découvrir des moyens d'y arriver, mais laissez-vous alors balancer librement, sachant que vous êtes soutenu par Dieu. Donc, la parabole était donnée pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher, et puis, je ne vais pas lire en détail, mais à un moment, il nous est dit au verset 7, « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Jour et nuit. Ce n'est pas forcément, pour moi, quelque chose qui doit être dans la durée, jour et nuit. Ça peut aussi vouloir dire à n'importe quel moment. Hein? Jour et nuit. Ça ne veut pas dire sur 24 heures, il y a 24 heures de prière. Mais ça peut aussi vouloir dire sur 24 heures, ça peut être à n'importe quel moment. Soit au lever, soit au milieu de vos activités. Soit le soir, vous savez, même fatigué, vous pouvez encore communiquer avec Dieu. Et moi, je ne comprends pas non plus pourquoi on a fait les choses compliquées pour les gens en disant que si vous voulez être vraiment chrétien spirituel, il vous faut sortir du lit le matin, il faut aller dans le froid, et vous mettre à genoux, peut-être sur un carrelage dur, et puis là, vous prenez une heure, et si vous n'êtes pas bien réveillé, ça ne fait rien, mais... si vous êtes vraiment spirituel, c'est ça que vous ferez. Non. Vous savez que vous pouvez même prier dans votre lit. C'est possible que votre première pensée peut être pour Dieu. Mais oh, merci Seigneur, parce que j'ai pu me reposer cette nuit. J'avais un toit au-dessus de la tête. J'avais un lit et une couverture bien chaude. Et vivez les choses naturellement sans en rajouter. Et certains sont du soir, certains sont du matin, et on le sait. Mais faites-le naturellement. Mais le plus important, c'est faites-le. C'est allez-y. Ne vous relâchez pas, laissez Dieu agir, laissez Dieu couler dans votre vie. Et il nous a dit, il tardera-t-il à leur égard? Il y a comme une promesse là derrière, disant, mais non, il veut. Ce n'est pas lui qui retient encore cette idée religieuse, c'est que même si tu ne sais pas pourquoi, l'exaucement ne vient pas, mais Dieu a ses raisons, il faut simplement attendre des années, et on vous donne la bonne petite anecdote de celui qui n'a jamais vu l'exaucement de ses prières. Et le jour où il est mort, ça s'est passé, et il ne l'a jamais vu. Mais je veux dire, ça ne nous intéresse pas, ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'avais entendu ça, quelqu'un qui a prié pour un autre qui n'était pas chrétien, et donc il a intercédé, pendant des années, il a prié pour lui. Et c'est le jour de son enterrement que cette personne, en entendant le message de la prédication, a vraiment tourné sa vie vers Dieu. Tant mieux pour lui, mais c'est pas ma vision de tardera-t-il à leur égard. D'accord? Je vous le dis, une promesse. Il leur fera promptement justice. Tout le monde dit promptement?
Promptement.
Si c'est trop compliqué pour vous comme mot, promptement, dites rapidement.
Rapidement.
Rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi et la prière doivent agir ensemble. Sinon, ça ne sert à rien de perdre du temps. Ne perdez pas votre temps à faire des prières. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ça ne vous sert à rien. Pourquoi? Parce que si vous faites des prières inutiles, vous penserez avoir été très spirituel, avoir passé beaucoup de temps dans la prière, mais ça ne produit aucun résultat. Si ce n'est le découragement. Si ce n'est un mauvais exemple pour les autres, en disant, ah, un tel, c'est vraiment quelqu'un qui prie beaucoup et regardez sa vie. Il souffre, il n'y a rien qui marche, etc. Et alors, ça donne un mauvais exemple pour les autres. Alors, tout le monde se dit, ah oui, des fois, la vie est comme ça, elle est dure, on n'obtient rien, mais il faut le faire quand même. C'est une caricature. Moi, j'ai envie de dire, cessons avec tout ça. Ne rendons pas les choses compliquées. Il doit y avoir un fruit de la présence continuelle de Dieu dans notre vie. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Un fruit. Un fruit, c'est concret, un résultat. Nous avons eu un pommier cette année, il a donné une pomme. Il y avait un fruit, cet arbre n'était pas sans porter du fruit. Nous attendons plus de lui. Il va falloir qu'il fasse un effort l'année prochaine. Mais c'est une réalité que Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Nous n'allons pas condamner cet arbre qui va porter certainement du fruit. Et de la même façon, dans nos prières, on va peut-être avoir des fois des petits exaucements. Mais on se réjouit de chaque exaucement. On se réjouit de ce que Dieu peut faire. Et quand il peut faire des petites choses, il peut aussi faire d'autres. Pour lui, c'est pas un problème. Il faut pas venir à lui en disant, maintenant là, on va venir avec un problème. Vraiment, ça va être un morceau difficile pour Dieu. Non, il n'y a rien qui est trop difficile. Quelques petits conseils encore pour terminer. Apprenez à méditer sur la parole. Parce qu'au moment où vous en aurez besoin, des fois, il faudra vous appuyer sur une promesse. Votre foi peut pas juste être basée sur vos désirs. Oh, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Comme si vous écriviez au Père Noël votre liste de cadeaux. C'est autre chose avec Dieu. Alors, votre foi, à un moment donné, devra s'appuyer sur quelque chose. Apprenez à méditer. Prenez un moment dans la lecture des Écritures. Ne lisez pas mécaniquement, simplement pour faire votre devoir religieux. Utilisez les moyens que vous voulez. Si ça vous fait du bien, prenez un cahier. Écrivez la date. Voilà, j'ai demandé ça. Écrivez, voilà, le verset qui m'a parlé. Je pense que c'est ça que Dieu veut me donner ou me promettre. Donc, prenez un moment dans votre lecture des Écritures. Écoutez ce que Dieu veut vous dire. Appropriez-vous cette parole. Dites, voilà, ça c'est vraiment à moi maintenant. Vous le saurez, c'est pas moi qui peux vous le dire. C'est vous qui le saurez. Dire, ça c'est à moi maintenant. Et quand c'est à vous, personne ne peut vous le prendre. C'est vous qui pouvez le lâcher, mais personne ne peut vous le prendre. C'est comme si quelqu'un qui a soif, il a bu, on dira non, c'était pas vraiment de l'eau, il dira mais moi j'ai bu et puis maintenant je n'ai plus soif. Donc tes théories, ça m'est égal. Moi, je sais la réalité de ce que je viens de vivre. Considérez ce qu'elle peut apporter dans votre vie et ce qu'elle apporterait autour de vous, cette parole. Méditez sur les œuvres du Seigneur. Méditez, pensez à tout ce qu'il a fait dans le passé. Et rappelez-vous, ce qu'il a fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Dieu n'a pas de chouchou. Des fois, on a plaisanté. Certains sont les chouchous. Ça n'existe pas, ça. Ou alors, c'est tout le monde qui l'aime. Mais ce, il n'y a pas de préféré. Quelque part dans la Bible, il est dit, même si un tel et un tel prophète venaient me prier, je n'écouterais pas. C'était pour montrer que vraiment, ces hommes de Dieu n'arriveraient pas à fléchir Dieu. Mais il n'y a pas de différence. Si quelqu'un vient avec foi pour demander, il le recevra. Prenez un moment pour regarder vos proches avec les yeux de la foi. Demandez au Saint-Esprit comment lui les voit. Parce que nous, on peut aimer quelqu'un et on peut se laisser aller au bout d'un moment, avoir les défauts, avoir tout ce qu'on voudrait corriger. Et se créer au bout d'un moment une mauvaise atmosphère à cause de ça. Alors, il faut lâcher ces choses et il faut regarder les gens comme Dieu les voit. Et lui, il voit des qualités, il voit des potentialités, il voit des choses qui vont faire que vous pourrez être reconnaissant. La seule façon d'avoir un regard juste est de voir par les lunettes de la vision de Dieu. Il donne un regard de foi, d'amour, de rédemption. Rédemption, ça veut dire racheter. Quelque chose qui a été gâché, on peut le racheter, on peut lui donner une nouvelle chance. On est en plein dedans, c'est notre civilisation du recyclage, de l'écologie, de ne rien jeter, de réutiliser pour ne pas gâcher les choses, des ressources de la planète Terre. Mais Dieu est dans la restauration depuis très longtemps. Pas seulement de meubles antiques. Il restaure, il peut régénérer. C'est formidable ça, régénérer. On parle des fois dans la médecine, on parle de certaines cellules de notre corps qui peuvent se renouveler. C'est merveilleux. Et puis là où c'est moins bien, c'est quand on vous dit certaines cellules, une fois que c'est terminé, elles ne sont plus remplacées et puis ça diminue vos capacités. À la fin, ça produit maladies, problèmes, surtout au niveau du cerveau, des choses comme ça. Mais Dieu peut régénérer. Il est même dit que c'est le Saint-Esprit qui produit en nous la vie de Dieu et qui redonne la vie à notre corps mortel. Vous croyez que c'est trop pour lui? S'il a tout créé, s'il nous a créé, il peut aussi nous renouveler. Donc, levez les yeux sur la moisson qui vous entoure. Jésus a levé les yeux un moment et il a dit dans le naturel, il a dit, vous dites que c'est encore 3 ou 4 mois jusqu'à la moisson, mais moi je vois déjà la moisson. Je vois des personnes qui viennent à Dieu. Je vois des personnes qui ont soif et qui répondent. Et regardons donc cette vision céleste d'une communication du ciel ouvert. Apprenez à parler au Seigneur le plus souvent possible. Même pour les petits détails, remerciez-le. Partagez-lui vos préoccupations les plus simples. Il est intéressé, même que vous le dites, ce que vous appréciez dans la vie. Les préoccupations les plus simples comme les charges les plus lourdes. Entretenez le jardin de votre être intérieur par un flot continuel de l'arrosage du Saint-Esprit en vous. Chantez, fredonnez, confessez les paroles de Dieu. J'aimerais que la Bible, la parole de Dieu, la louange, ça soit pour vous comme, vous savez, ces chansons qu'on entend des fois à la radio le matin, si ça vous arrive, et puis alors, elles vous lâchent plus. Et des fois, c'est agaçant. Parce que vous avez entendu quelque chose, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Moi, j'aimerais que ce soit comme ça dans le bon sens pour chacun d'entre nous. Que quelque chose soit en nous, demeure tout le temps et soit entretenu. Est-ce que vous êtes prêts pour ce que je vous ai proposé, ce jeu des minutes? Essayez de parler au Seigneur toutes les 10 minutes. On se rappelle que Smith Wigglesworth, l'évangéliste anglais, qui était vraiment un homme consacré, à un moment donné, quelqu'un l'avait emmené en voiture et il dit « Stop, arrête-toi ». Et puis alors ils sont arrêtés sur le bord de la route et puis il a commencé à prier et dit « Seigneur, pardonne-nous, ça fait plus de 10 minutes ». que nous parlons de choses vraiment sans importance et que nous n'avons pas parlé de toi. C'était sa façon d'être extrême, mais son extrémisme a conduit des gens innombrables à être guéris, sauvés, délivrés. Il y a eu des résurrections de morts et des choses comme ça. Donc, nous devrions pas forcément faire comme lui, mais se rappeler que de temps en temps, dire « Maintenant, j'étais absorbé par ce travail, ça fait 1, 2, 3 heures que j'étais en plein dans cette concentration et j'ai pas pensé un instant peut-être une petite prière pour dire « Seigneur, aide-moi à bien faire ou dirige-moi ». Donc, faites cela. Peut-être après, vous pourrez réduire les minutes. Vous mettez votre montre pour toutes les heures. Après, ça sera toutes les demi-heures. Et au bout d'un moment, ce que je veux, c'est que vous arriviez à vivre avec lui comme un partenariat constant. Et donc... La dernière chose que je vais vous dire encore, c'est dans Jérémie 1. Comme je l'ai dit, qu'on peut compter sur lui, qu'on peut se reposer en lui. On va voir une fois de plus un verset que nous aimons bien, Jérémie 1, 12. L'Éternel dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc c'était cette conversation que Jérémie a eue avec Dieu. Il nous est dit, la parole de Dieu fut adressée en ces mots, verset 4. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Cette chose qui nous dépasse, que je disais, que Dieu puisse avoir un projet sur notre vie depuis toujours. Il nous voit, il a un projet pour nous. Jérémie répond, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler, je suis un enfant. » Toutes les excuses que nous pouvons trouver. Mais Dieu continue d'avoir un projet pour nous. Et donc, il est dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. » Ça veut dire, ne trouve pas des excuses, mais laisse-le agir. « Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est particulier à Jérémie. Il l'établit par rapport aux nations, aux royaumes, etc. Et puis, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Et il répondit, je vois une branche d'amandier. Et là, on nous explique dans ma petite note de ma Bible, que quand il a cette vision de l'amandier, l'amandier, c'est un symbole de la vigilance et de l'activité. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, pourquoi c'est comme ça, mais certaines choses dans le naturel sont des symboles. L'agneau, c'est le symbole de la douceur, de l'innocence. La colombe vient apporter la paix. Donc, il y a toutes sortes de symboliques qui sont rentrées dans le monde et qu'on comprend. Et donc ici, il nous est dit que l'amandier, pour Jérémie, c'était un symbole de la vigilance et de l'activité. Et quand il a eu cette vision, il a vu un amandier et il a pensé à la nature, la caractéristique qu'on donnait habituellement à cet arbre. Et Dieu lui confirme, il dit, tu as bien vu. Ça veut dire que moi, Dieu, je me présente à toi et je suis comme ça. Je suis vigilant, je veille sur ma parole, je suis attentif et je veille aussi à l'exécuter. Donc, on n'a pas ici un Dieu qui traîne les pieds, qu'il faut convaincre de bien vouloir nous aider. Mais on a quelqu'un qui est attentif, qui veut exécuter sa parole. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous? Amen. Alors, priez plus. Ne vous privez pas. Et réjouissez-vous des résultats que vous allez voir de transformation. Prenez du temps pour penser à Dieu. Fixez-vous vos limites, toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, mais prenez du temps pour ça. Vous allez vous en trouver bien et vous pourrez nous donner des témoignages de tous vos exaucements dès que nous nous reverrons. Au plus tard, samedi prochain, chacun vient avec plusieurs miracles qui se seront passés dans la semaine. Si vous cherchez bien, il y en aura eu.